Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Ce soir, nous allons écouter le premier épisode de Boîte Rouge pour Salle Noire, une émission mensuelle pour parler des coulisses de la Cinémathèque de Grenoble et de sa programmation. Elle est produite et réalisée par Émilie Vadel et elle est disponible sur les plateformes de podcast. Bonne écoute!
Alors, vous allez vous remettre en place.
Boîte Rouge pour Salle Noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble.
On va repasser le film sans la chanson.
Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message.
Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein.
On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Quel bonheur.
Boîte Rouge pour Salle Noire, un mois, une thématique, 5 films. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier volet de l'émission mensuelle Boîte Rouge pour Salle Noire qui vous replonge au cœur des coulisses et de la programmation de la Cinémathèque de Grenoble. Alors pas la peine d'habiter dans notre belle ville au cœur des montagnes pour nous écouter. Ici on vous donne des clés de lecture et de compréhension des films que vous pouvez ensuite retrouver au cinéma Juliette Berthaud ou que vous pouvez regarder dans un autre cinéma partout en France.
Exactement.
Pour ce premier épisode, c'est Peggy Lecarne-Zegman, directrice de la Cinémathèque, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Peggy.
Bonjour Émilie.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission.
Avec grand plaisir.
Alors, on est présentement dans ce que j'appelle la boîte rouge, qui finalement est une boîte noire.
Oui, enfin oui, une boîte noire, c'est l'intérieur de la Cinémathèque.
C'est une boîte finalement, juste derrière l'accueil dans la Cinémathèque.
Oui.
Et c'était pour faire une espèce de mise en abîme. Pourquoi ce titre ? Pour faire une espèce de mise en abîme puisqu'on enregistre au cœur de la Cinémathèque.
Exactement. D'ailleurs, j'en profite, c'est une salle en fait qui date de la rénovation des locaux en 2014. Il y avait d'autres plans qui étaient prévus et puis ils ont découvert un grand mur porteur qui était caché sous plein d'épaisseur avant. Et du coup, ils ont dit « Ah, mais intéressant, on peut peut-être penser à autre chose. » Et c'est là qu'est venue l'idée de cette petite salle qui nous sert pour les petites formes, qui nous sert pour présenter du court-métrage et qui nous sert aussi pour faire toutes les sélections du comité de sélection pour le festival du film court en plein air.
Et qu'est-ce qu'on fabrique exactement à la Cinémathèque, justement ?
Alors, à la Cinémathèque, on fabrique plein de choses. Enfin, on ne fabrique pas, on présente plein de choses. La Cinémathèque, elle a plusieurs missions. La première mission, qui est un peu une mission invisible, en tout cas pour le grand public, c'est celle de la conservation. La conservation de films sur un support argentique, encore aujourd'hui à l'ère du numérique, on en a besoin. Et puis, tout ce qui va faire la vie des films autour d'eux. Et nous, à la Cinémathèque de Grenoble, on conserve essentiellement des objets de documentation. Donc, des photos d'exploitation, des affiches, des dossiers de presse, des scénarios. On a un fonds documentaire vraiment très riche. Ça va de 24 000 affiches, 300 mètres linéaires de documents, 200 titres de revues différents et les plus anciennes datent de 1916. On est bibliothèque associée de la ville de Grenoble. On a plus de 4 000 ouvrages sur le cinéma, plus de 10 000 DVD. Enfin, voilà, je passe un peu vite sur tous ces gros chiffres, mais c'est parce que notre fonds documentaire, comme la Cinémathèque commence à être ancienne, hein, elle date de 1962, eh bien, le fonds s'est constitué, continue de se constituer, et ça, c'est vraiment notre première mission, et c'est totalement invisible, parce que ce sont des archives qui sont conservées dans nos locaux, qu'on met à disposition du public, bien évidemment, mais comme les pratiques évoluent aujourd'hui, ben, les gens ne vont pas forcément dans les bibliothèques pour découvrir tout ça. Alors, je précise juste une chose, on ne passe pas forcément que des films qui sont dans nos collections. Même de plus en plus, on fait venir des films d'ailleurs. Là, par exemple, dans les semaines qui vont venir, il y aura le Maudit Festival, Booba Hotep, on l'a dans nos collections. Mais par contre, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que nos copies soient valorisées. Le problème qu'on a, c'est que les copies, elles sont arrivées pour certaines il y a 50 ans. On a parfois le film, mais on n'a plus d'ayant droit. Et nous, en tant que Cinémathèque, on ne possède pas les droits des films qu'on conserve. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des films qu'on a envie de montrer, mais parfois, on ne peut tout simplement pas les montrer. Donc, notre programmation, on va la penser surtout en fonction de nos envies, de thématiques qu'on a envie de défendre auprès du public, de réalisateurs, de réalisatrices, de professionnels du cinéma qu'on a envie de mettre en avant. Pour nos collections, et notamment films, on essaie aussi de les valoriser par d'autres biais. Puisque, juste pour finir sur nos missions, le deuxième point, donc, c'est bien sûr tout ce qui est valorisation de ce patrimoine cinématographique. Ça passe par les projections dont on va parler ou le Festival du film au cours en plein air. Et puis, la troisième mission, c'est l'éducation et formation à l'image qui va passer par des liens avec des écoles, collèges, lycées, l'université Interage, des visites guidées avec l'Office du tourisme. En tout cas, d'accompagner vraiment l'image cinématographique de plein de façons différentes.
La Cinémathèque de Grenoble, elle propose une programmation qui s'appelle Planète Terre.
Oui.
Comment est-ce qu'on fabrique une programmation et pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique ?
Alors, nous sommes une cinémathèque, enfin, on anime comme ça une cinémathèque et une cinémathèque. Pour beaucoup, c'est quand même un lieu associé au patrimoine, donc à une vision de l'histoire parfois un peu poussiéreuse, un peu ancienne. Pour autant, moi, je défends vraiment l'idée selon laquelle regarder les films d'hier est aussi vraiment une façon d'interroger le présent, voire le futur. Et que de mettre en écho ce qui se passe actuellement ce que les films ont raconté est quelque chose de vraiment, vraiment passionnant. Et donc, de la même façon que l'année dernière, on avait fait le cycle Cinéma Odyssée, qui était une façon d'interroger la migration et l'horreur de ce qu'est la migration, notamment aujourd'hui avec la traversée de la Méditerranée, etc. et qu'on représentait par plein de films qui racontaient parfois autre chose, mais qui interrogeait cette thématique-là. Il nous semblait vraiment important aujourd'hui sur la réalité du réchauffement climatique, de ce qui se passe par rapport à la planète. Il nous semblait intéressant de pouvoir interroger ça aussi au niveau du cinéma. Et puis après, l'autre chose, c'est qu'on est beaucoup sollicité par des associations pour présenter des films inédits, des documentaires sur ces thématiques. C'est pas forcément notre place en tant que cinémathèque. Pour le coup, c'est plus, on les invite à aller du côté des cinémas à réessayer, vers les bibliothèques, qui sont des lieux où c'est peut-être plus pertinent de pouvoir présenter ces films. Mais en tout cas, on sentait, vu toutes les demandes qui nous étaient faites sur cette thématique, que la question de l'environnement et de sa représentation, elle interroge tout le monde aujourd'hui. Et donc, nous, les programmations, elles se pensent, on les rumine en quelque sorte pendant un certain temps. On essaie d'avoir nos idées comme ça bien en amont pour réfléchir quel angle on va prendre, quel type de film, etc. Notre programmation, elle va se penser aussi en fonction des films disponibles. Par exemple, si je parle de cette programmation, je vais parler de ce qui n'y est pas, par exemple. On avait très envie de montrer des films catastrophes comme Le jour d'après ou 2012. Ce sont des films aujourd'hui qui ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de copie.
Pour quelle raison ?
Tout simplement, alors je crois en fonction des dates, mais qu'on était au moment de l'arrivée du numérique, juste avant, juste après, juste avant du coup je pense. Comme il n'y avait pas de... Enfin, que c'était des copies 35 de Major américaines, il n'y a pas forcément eu de conservation en France, si ce n'est pour le dépôt légal, et on ne peut pas utiliser ces copies-là. Nous, on ne fait pas venir de copies des États-Unis, en tout cas, on n'en a pas les moyens. Tout simplement, pas possible de présenter ces films-là aujourd'hui en France. Oui, on va les trouver en DVD, oui, on va les trouver en VOD, mais pour le cadre de la salle, dans une copie professionnelle, pour pouvoir la diffuser au public sur grand écran, les copies n'existent plus aujourd'hui.
On a parlé des films qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que tu nous proposes, les cinq films que tu nous proposes aujourd'hui dans le premier épisode de Boîte Rouge pour Salle Noire, quels sont-ils?
Alors, pour ce cycle, on présente des œuvres assez éclectiques, et c'était aussi l'intérêt d'évoquer un cycle comme celui-ci. Et on va parler notamment aujourd'hui de La Route, de Quand souffle le vent, de Princesse Mononoke, Wall-E et The Land of Hope.
Très bien. Alors, moi, j'ai choisi, en préparant cette émission, que nous traitions ces films par les thématiques qu'ils traitent, à savoir une histoire après une catastrophe nucléaire ou une terre dépeuplée où l'on suit l'évolution d'un personnage, en dépit du genre de ces différents films. Mm-hmm. Alors, seule Princesse Mononoke n'est pas inclus dans une de ces deux thématiques, mais on peut le lier néanmoins à The Land of Hope, à savoir le Japon, puisque c'est là où se tient l'histoire.
Oui, et puis de toute façon, c'était important pour nous de montrer des films japonais dans la mesure où le Japon et le cinéma japonais en particulier est particulièrement marqué par la bombe atomique, par tout ce qui est lié à la catastrophe nucléaire. Et le cinéma de Miyazaki, même s'il y fait référence de façon indirecte, c'est une question qu'il traite dans tous ses films. Et donc il y a de plus en plus il y a toujours eu depuis les événements de tragique de la Seconde Guerre mondiale, une représentation de cette catastrophe dans le cinéma japonais. Godzilla, c'est une émanation de la catastrophe nucléaire au Japon. Et c'est vrai que suite à ce qui s'est passé à Fukushima, The Land of Hope, c'était vraiment l'occasion de montrer par la fiction ce qui s'est passé autour de Fukushima, mais avec vraiment un terreau d'une histoire cinématographique liée, marquée vraiment par la bombe atomique.
On va commencer par, du coup, Princesse Mononoke, oui, qui est produit par Hayao.
Réalisé et produit par les studios Ghibli, qui sont les grands studios extrêmement célèbres, producteurs de la majorité des films de Hayao Miyazaki et de Isao Takahata, entre autres, qui ont marqué vraiment de leur style, de leur esthétique, de leur qualité, de leur exigence, l'ensemble de la production d'animation japonaise. On a aujourd'hui de nouveaux réalisateurs qui émergent, qui prennent vraiment la suite de ces deux grands réalisateurs là, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment marqué profondément tout le cinéma d'animation japonais et le cinéma d'animation de façon plus globale.
Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Quelle est l'histoire de Princesse Mononoke?
Alors, je vais pas trop raconter parce que j'aime pas divulgâcher les films, C'est un film qu'on peut raconter de différentes façons. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tente de se guérir. C'est l'histoire d'une jeune femme défend ce qui est le plus cher à son cœur. C'est l'histoire de la nature sa brutalité, constitutive, naturelle, se révolter contre ce que l'homme tente de lui faire. Ouais, j'ai pas
c'est
trop
poétique,
envie d'en dire plus.
Mais c'est poétique, c'est très bien. Et Miyazaki, il traite beaucoup de la nature dans ses productions et il propose souvent des aventures, des déambulations à travers le monde. Comment est traitée plus particulièrement la nature dans ce travail, puisqu'on le rattache à cette programmation Planète Terre?
En fait, ce qui était intéressant, pour nous, c'était un peu une évidence de toute façon de programmer un film de Miyazaki. Ça aurait pu être intéressant de programmer aussi Nausicaa, la vallée du vent, par exemple, mais on l'a programmé en séance en plein air au Musée de la Résistance il n'y a pas très longtemps. Donc, on essaye aussi de varier les propositions. Pour Princesse Mononoke, ce qui est très intéressant, c'est que la nature en tant que telle, par plein de petits détails et plein de personnages secondaires, mais la nature en tant que telle devient un personnage, un personnage actif dans la narration du film. Et que ce que raconte Miyazaki, ce n'est pas juste une narration humaine de personnages dans un décor particulier, mais des personnages qui sont acteurs tout autant que la nature autour d'eux de la narration en jeu. Ouais, je suis très très mystérieuse, mais je ne veux pas le raconter, ce film.
Non, mais c'est très bien. Et effectivement, il faut aller le voir. il va passer à la Cinémathèque.
Au cinéma Juliette Berthaud, tout à fait. Et je revérifie la date. Donc, c'est bien le vendredi 7 février à 20h. Et on travaillera en partenariat avec la librairie Glénat qui aura de belles publications autour de Princesse Mononoké qui arrivent tout juste, donc qui les présenteront à cette occasion.
Superbe, très bien. Passons au cinéma de Terre dépeuplée, Catastrophe, avec La Route, qui est le film inspiré du roman connu de Cormac McCarthy, prix Pulitzer 2007, donc il s'appelait Sur la route. C'est une vision plutôt post-apocalyptique que tu nous proposes, Peggy.
Oui, et c'est pareil, c'est un film qui s'est présenté un peu comme une évidence. Alors c'est vrai qu'on a des films plutôt récents hein, dans ce qui est présenté dans ce cycle-là. Peut-être aussi parce que des films plus anciens, des années 50, 60, étaient plus marqués encore par, encore une fois, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les questions liées à l'écologie et à l'environnement, même si c'est représenté au cinéma depuis longtemps, on va dire que ces 30 dernières années, c'est quelque chose qui est encore plus présent. Donc c'est aussi pour ça que notre corpus date de ces années-là. La route, c'est une évidence quand on traite de ces questions, puisque oui, c'est un film post-apocalyptique, c'est une dystopie, hein, très clairement. Mais la nature, pour le coup, est un décor, mais un décor tel que les choix laissés aux humains qui errent parmi tout ça sont difficiles. Un film comme La route, il témoigne de ce que voudrait dire un monde sans arbres, un monde sans animaux, un monde sans nature.
Et comment les images au cinéma témoignent de ce monde sans ?
C'est très intéressant dans les tentatives de représentation. C'est pour ça aussi, je pense, qu'on a mis pas mal d'animation, parce que c'est une vision fantasmée hein, sur ce genre de choses. Et c'est très intéressant de pouvoir la représenter comme ça, la nature. Dans La route, on est sur un film de genre, donc on va jouer beaucoup sur des effets spéciaux, des choses comme ça. C'est une vision très grise, avec une photographie hein, du film qui est très travaillée dans une espèce de monochromie, de froideur de l'image, qui est très, très efficace. Et c'est un film puissant, La route. C'est un film anxiogène. Hein, faut être honnête. Mais c'est un film puissant. Et puis, si on s'écarte une seconde de notre thématique, c'est un film qui interroge aussi la force des relations humaines, la parentalité, l'amour. Et c'est un film important.
Alors, dans le cycle Planète Terre, tu fais aussi le choix de présenter Wall-E.
Oui, parce que à la Cinémathèque, on s'adresse à des publics différents et donc aussi un public familial. Princesse Mononoké, c'est aussi un film d'animation, mais ce n'est pas forcément un film d'animation adapté pour les plus jeunes. L'animation, hein, ce n'est pas réservé aux enfants, c'est vraiment un cinéma qui peut être extrêmement divers et parfois vraiment beaucoup plus pensé pour des adultes. Princesse Mononoké, c'est un film un peu complexe et du coup, pas forcément pour les plus petits. Et pour notre programmation, c'était important aussi de pouvoir faire une proposition qui s'adresse aussi à des plus petits. Et Wall-E, c'est aussi une espèce d'évidence. Enfin, quand on a choisi le thème, en fait, on avait plein de films en tête qui étaient des évidences à chaque fois. Après, la question, c'était est-ce qu'on a assez de séances et est-ce qu'on peut avoir accès aux films ? C'était juste des questions pratiques. Wall-E, c'est un film Pixar, c'est une production américaine, c'est une grosse maison derrière. Pour autant, on a avec Wall-E un film d'une poésie, d'une justesse aussi, sur un monde dystopique, sur un monde où, encore une fois, on aurait tendance à peut-être en tant qu'humain, mal se servir de cette planète. C'est un film qui parle très bien de ça et qui peut s'adresser à un public familial. C'est un vrai délice, ce film.
Et dans un monde dépeuplé d'humains, puisqu'on est 700 ans après que le dernier humain soit parti, on a laissé la charge à un robot de nettoyer, en fait, la planète Terre.
Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, c'est un film qui parle aussi beaucoup, justement, de la trace humaine et au-delà des poubelles, de la destruction, du non-respect de la planète. Il y a, malgré tout... aussi l'héritage de l'art, de la musique, du cinéma, de la danse et la fascination d'une intelligence artificielle pour cette petite part si particulière qui fait l'humain et qui fait qu'il reste ça aussi.
Passons à la catastrophe nucléaire après cette vision post-apocalyptique du monde. Avec Quand souffle le vent, on se retrouve dans une ambiance d'explosion nucléaire en Grande-Bretagne. C'est un film de 1986. Ça nous rappelle une autre date bien connue qui n'est pas une fiction. Est-ce que la manière de traiter une catastrophe nucléaire, elle est différente de celle qu'on a maintenant dans Quand souffle le vent ?
Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à Quand souffle le vent, c'est que c'est une adaptation. L'adaptation d'un ouvrage, alors je mélange toujours le nom de l'auteur, c'est Raymond Briggs, si je ne me trompe pas. C'est un auteur qui avait signé notamment un album jeune public qui s'appelle Le Bonhomme de Neige, qui avait été adapté au cinéma et qui, pour le coup, est extrêmement poétique et extrêmement... C'est un film extrêmement doux. Donc c'était intéressant de voir l'univers de Raymond Briggs, qui est vraiment l'univers graphique qu'on peut retrouver dans le film et que le réalisateur Murakami va mettre en image. C'est un univers extrêmement naïf, très doux. Et justement, ce qui est passionnant dans Quand souffle le vent, c'est la façon dont ça va se désintégrer progressivement. Donc oui, la représentation, elle évolue, mais après, Quand souffle le vent est déjà un objet filmique assez singulier. Dans ce qu'il raconte, dans sa mise en scène. Donc on ne pourrait pas forcément en faire une généralité en termes de période par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui.
C'est marrant parce qu'en regardant les images, j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment stéréotypé de 1986. J'ai trouvé ça finalement... assez futuriste. Enfin, je veux dire, ça fait pas vieux, quoi.
Oui, mais après, je pense que ça a trait beaucoup aussi à l'illustration de départ et au travail de Raymond Briggs, vraiment.
Comment est-ce qu'est traitée la nature ? On en revient justement au thème planète Terre dans cet animé-là.
Alors, on ne va pas dire animé pour le coup ici, parce qu'animé, ça va être vraiment les films d'animation japonais. Là, on va dire film d'animation. Okay. Là, vraiment, la nature, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un univers rural dans lequel vivent ces personnages. Et encore une fois, on va évoquer cette décomposition. C'est ça qui nous intéresse. Mais je ne veux pas en trop en raconter.
On vous raconte des trucs, mais sans trop en raconter non plus, il faut aller voir les films.
Voilà, exactement.
Que ce soit à la Cinémathèque, c'est bien si vous êtes à Grenoble, mais que ce soit aussi en louant des films sur Internet ou par d'autres procédés.
En allant les voir dans d'autres cinémas.
Choisir, exactement. Alors, j'ai trouvé comme information que ce film a été présenté en France en 2012, soit oui. 26 ans après sa conception. Pourquoi ?
Alors ça, ce sont les aléatoires de la distribution des films. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'intérêt d'un distributeur pour passer ce film. Il y a 20 ans, en France, le public pour le cinéma d'animation n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. C'était vraiment un cinéma vraiment de niche, sinon associé au jeune public. Un film comme celui-ci, avec ce dessin très naïf et donc du coup associé à quelque chose d'enfantin sans l'être, c'était compliqué je pense à distribuer. Aujourd'hui avec le fait qu'on est plus sensible à ces questions relatives à l'environnement, que l'animation aujourd'hui est mieux comprise aussi comme un art qui s'adresse à tous et pas que aux enfants, et qu'il y a eu un distributeur qui s'y est intéressé, voilà. Après j'ai pas le détail forcément, mais ça nous à la Cinémathèque on y est confrontés régulièrement, c'est-à-dire que on est loin de tout voir, il y a des choses encore énormément à découvrir et l'occasion de ressortir, notamment dans des copies restaurées comme ça peut l'être là, et l'intérêt donc du coup de nouveaux distributeurs pour ces films permettent de mettre en valeur des films qui finalement sont presque inédits en quelque sorte en France.
Oui c'est ça, et puis on estime quand même que le sujet, la manière dont il est traité est encore dans le coup 26 ans après.
Oui en tout cas que ça reste suffisamment juste ou que en tant que document, c'est quelque chose qui est intéressant
qui
à regarder.
D'être visionné, quoi. Et enfin, attention, The Land of Hope.
Yes.
Donc là, on est à Nagashima, au Japon. La centrale nucléaire vient d'exploser. On établit un périmètre de sécurité un peu absurde, coupant la localité en deux. Mmh. Une famille se sépare alors, les personnes âgées restent, alors que les enfants s'en vont pour ne pas être irradiés. On est là après l'explosion de Fukushima. Il y a eu énormément de documentaires qui ont été produits après Fukushima, mais c'est une des premières fictions où l'on sort un peu de cette vision post-apocalyptique et qu'on remet du sentiment un peu
et de la fiction.
Et de la fiction.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est une production relativement récente, hein, puisque le film date de 2012. Donc voilà, on est dans une production assez récente. Mais c'était important de pouvoir montrer aussi un cinéma qui est réactif par rapport à ce qui se passe dans la société et qui a capacité à se transformer, à dire quand même assez rapidement. Puisque 2012, même si c'est un des premiers films de fiction sur le sujet après Fukushima, ça va vite quand même après. Et on se rend compte, et c'est ça qui nous intéressait aussi dans ce sujet Planète Terre, à quel point le cinéma est un moyen d'exprimer, de regarder le monde tel qu'il est en train de muter et de pouvoir saisir ça à différents moments. Et dans les différents films que l'on présente, de voir que ces différents moments se répondent tous et que ça reste quand même pas très joyeux ce dont tous ces films témoignent. C'est intéressant d'utiliser le film, de faire en sorte de programmer ces films de fiction ensemble pour voir ce qu'ils nous racontent vraiment.
Ce qui est intéressant, je trouve, en traitant le thème de la nature, je ne sais pas si ça a été pensé aussi comme ça au niveau de la cinémathèque, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de justice sociale dans tous ces films.
Oui.
Mais parce qu'on peut aussi relier la justice climatique à la justice sociale.
Oui,
finalement.
tout à fait. Et puis parce que les évolutions climatiques, elles posent forcément ces questions sociales aussi. On aurait pu effectivement aller sur d'autres films. Moi, je me suis posé la question des films de Terrence Malick, par exemple, mais plus sur une question de transcendance de la nature, moins sur une nature détruite ou destructrice. Mais un film comme The Land of Hope ou Les Bêtes du Sud Sauvage qu'on verra par la suite, sont des films aussi qui n'hésitent pas à travailler sur la beauté, à une mise en scène de la beauté de la nature, même en train d'être détruite. Donc il y a quelque chose aussi qui est travaillé hein, par des réalisateurs en ce sens-là. Pour autant, oui, c'est vrai, parler de ces questions-là, c'est aussi parler de justice sociale, c'est bien aussi de montrer que des histoires d'humains, elles racontent ces rapports de force aussi, ces fragilités. Ce sont des beaux témoignages en tout cas.
Vous avez un site extrêmement bien fait, un site internet, et vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux.
Oui.
Est-ce que tu peux redonner aux auditeurs l'adresse
du site
TTP,
ouais. Le site. Donc le site c'est www.cinémathèquedegrenoble.fr et le site est tout neuf, donc il a été remis à jour, tout ça.
Trop bien. Si vous allez dans l'onglet programmation et que vous cherchez le cycle Planète Terre, vous retrouverez les synopsis des films dont on a parlé ainsi que leur lieu et leur date de projection.
Exactement.
Merci beaucoup Peggy de nous avoir ouvert cette belle programmation aujourd'hui.
Merci Émilie.
Quant à nous, très chers auditeurs et très chères auditrices, on se retrouve fin février sur toutes les plateformes de podcast pour un nouvel épisode.
Exactement.
De Boîte Rouge pour Salle Noire, même si la boîte est noire elle aussi. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup.
Alors, vous allez vous remettre en place.
Boîte Rouge pour Salle Noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble.
On va repasser le film sans la chanson.
Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message.
Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein.
On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Quel bonheur.
Boîte Rouge pour Salle Noire, un mois, une thématique, 5 films.
C'était Boîte Rouge pour Salle Noire sur Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours dans l'apérophonie. Avant de nous quitter et pour rester dans la thématique du cycle Planète Terre, je vous propose d'écouter la bande originale du film Princesse Mononoke avec Legend of Ashitaka par Joe Hisaishi.